Une politique d'épisode sur l'actualité au 5 octobre 2025. Commençons par les Shameless Plugs. 12 au 17 octobre, Objective by the Sea version 8. 14 au 15 octobre, Attack Con version 6. 14-15 octobre, Forum Incyber Canada. Code rabais dans les show notes. Je vais animer deux panels et je vais être participant à un autre panel. 4-5 novembre, FurCon 2025. 8 et 9 novembre, DEFCON en présentiel à Montréal ou en virtuel pur et dur. Je serai présent pour animer. Si vous venez faire une jazz, je serai présent. 17 au 20 novembre, European Cyber Week à Rennes en France. Je vais y être. Potentiellement serrer des mains et enregistrer quelques podcasts spéciaux à ce moment-là aussi. Et le 25 et 26 février, le Sécur, le Call for Paper est ouvert. L'information dans les show notes. Si vous voulez aller postuler, sinon écrivez-moi directement. Ça va me faire énormément plaisir de consolider vos excellentes conférences que vous proposez. Commençons rapidement sur les différents éléments de cette semaine. Il y en a beaucoup. Pour ceux qui trouvent que je parle vite, attachez votre sucre. Je vais parler vraiment vite aujourd'hui ou réduisez la vitesse de votre lecteur pour être capable de suivre la cadence. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de nouvelles. J'ai vraiment eu difficulté à trier. J'en ai enlevé quand même beaucoup, mais il en reste encore énormément et je crois que c'est très important de les aborder puisque ça va quand même moduler les différents éléments. Et certains petits éléments éditoriaux qui vont apparaître au travers. Je commence par les vulnérabilités. C'était une très grosse semaine sur les vulnérabilités, donc patchez vos systèmes. Si ce n'est pas fait automatique, activez-le au possible. Première, pour mes amis sur Apple, il y a un énorme vulnérabilité qui est là sur l'élément de Front Parser qui vient attaquer. Donc, c'est sur toutes les plateformes. Et c'est plusieurs versions en arrière qui sont affectées. Donc, updatez, même si vous n'avez pas la dernière version de iOS, de macOS ou peu importe. Cette vulnérabilité-là affecte de façon vraiment très, très large. C'est des problèmes récurrents dans ces choses-là. Il n'y a pas que Apple qui le vit. Je crois que la semaine dernière, il y a WhatsApp, que je n'adresse pas non spécifiquement dans les show notes, mais WhatsApp aussi est touché par ce genre de choses-là. Et il y en a d'autres aussi qui se touchent par ce genre d'éléments-là d'interprétation de contenu qui est reçu. Donc, soyez très prudents. C'est des éléments qui sont très sensibles, qui encore affectent beaucoup de l'échelle. Donc, c'est un petit peu malheureux, cette situation-là. Western Digital, MyCloud, NAS est une vulnérabilité. C'est un produit consumer pour les monsieur et madame tout le monde. C'est un point où il peut prendre que les gens normaux aillent corriger. Ce que je trouve un peu malheureux, ça devrait être vraiment automatique dans toutes les échelles qui sont destinées à des clientèles qui ne sont pas entreprises. Il ne devrait même plus avoir de questions à se poser. Ça devrait être corrigé automatiquement, ce genre de choses-là. En même temps, je peux comprendre une forme de résistance de certaines personnes parce que les compagnies ont tendance à avoir un très gros appétit commercial, donc de pousser des modifications qui viennent modifier le logiciel qui ne sont pas voulues. Là, c'est un peu un état de fait, donc c'est peut-être que les consommateurs devraient se révolter d'une façon ou d'une autre et justement empêcher ça. Mais il reste que tout ce qui est correctif de sécurité sur tout ce qui est consumer grade qui est faite pour les utilisateurs, qui n'est pas faite pour les entreprises, devrait se corriger automatiquement sans considération à ce que c'est. Mes parents ne corrigent pas automatiquement. Vos parents ne doivent pas plus corriger automatiquement les éléments qui vivent dans les éléments technologiques, qui ne doivent même pas savoir qu'ils existent, qui vivent dans leur maison. Donc, ça devrait se corriger automatiquement. Je sais qu'il y a des lois qui sont en train de se mettre en œuvre. C'est pas assez loin, à mon avis. Ça va aller plus loin que ça, mais bref, on devrait être dans un univers où tout se corrige tout seul. VMware a connu une mauvaise semaine essentiellement. Beaucoup de 3 correctifs majeurs à appliquer, notamment, sachant que c'est sous le modification de Broadcom. Je sais que les gens sont en modification, sont en fluctuation. C'est mal aimé maintenant par Broadcom au sens où ça a brusqué beaucoup de gens. Malgré ça, surveillez, assurez-vous d'avoir corrigé. Parallèlement à ça, la Chine aurait utilisé une de ces vulnérabilités depuis au moins un an, donc dans un environnement où peut-être que la transition à Broadcom n'a pas permis de corriger ou d'amener les vérifications nécessaires, ce qu'on pouvait, on aurait normalement pu s'attendre d'une compagnie de sérieux de cette ampleur-là. Donc, c'est un peu décevant que ça existe depuis un an. Et ça l'amène aussi le fait que vous devriez surveiller vos installations VMware que vous avez dans vos infrastructures. C'est sûr que vous n'avez pas d'infiltration. Les Chinois, en l'occurrence, mais de d'autres natures, parce qu'il n'y a pas que les Chinois qui sont intéressés par les différents systèmes. Autant les autres éléments qui sont hostiles à l'Occident ou tout le crime organisé qui est là aussi, qui ne cherche qu'à faire un dollar de plus sur votre dos à votre détriment. Donc, de ce côté-là, soyez vigilants côté VMware, même si la compagnie n'est plus tellement amicale. À ça, une preuve de concept est sortie sur le fait qu'il a été démontré que VMware Workstation, on est capable de sortir du guest, aller vers le host. Donc, c'est toujours la hantise des gens en sécurité d'être capable de sortir du confinement de la machine virtuelle pour aller attaquer la machine host. Ça a été mis en preuve de concept. Ça va sûrement se revoir dans d'autres circonstances. Soyez vigilants. La virtualisation n'a jamais été très étanche. Donc, assurez-vous de bien surveiller. Et si on va dans la containerisation, c'est historiquement encore moins étanche que la virtualisation. Donc, assurez-vous que vos systèmes, vos contrôles, vos différents éléments en place qui viennent garantir et assurer cette isolation-là soient mis en place correctement pour vous assurer de ne pas subir ce genre de choses-là. Tesla, son module de télémétrie est vulnérable. Comme une Tesla, c'est un ordinateur sur roue l'Apache. C'est un peu weird comme idée qu'on doive corriger les Tesla, mais c'est un peu comme tous les objets technologiques dans nos maisons. Ils devraient se corriger automatiquement. Ça devrait se mettre à jour tout ce qui est correcteur de sécurité. Tesla, dans ce cas-ci, s'est touché, mais Tesla demeure quand même un des véhicules où la cybersécurité est le plus robuste. Les autres ordinateurs sur roue sont probablement moins, donc soyez vigilants. Assurez-vous de corriger si c'est fait ou s'il y a une vulnérabilité ou autrement de vous assurer que de surveiller tout ce qui se passe sur votre véhicule pour s'assurer qu'il ne soit pas hacké et que vous ne fonciez pas malheureusement dans un arbre, comme ça a été présenté dans un film pas si lointain. Soit lointain que ça. Veeam aurait une élévation de privilèges qui sera en vente sur le dark web. Soyez vigilants ceux qui utilisent cette solution-là pour notamment les backups de différentes solutions. Donc, vous assurez que c'est bien fait. Normalement, la surveillance associée, votre SIEM ou votre SOC serait en mesure de le surveiller. Donc, assurez-vous que ces éléments-là sont bien en place. Le CISA a informé sur une vulnérabilité de sudo sur Linux. Sudo étant très, très important puisque donnant accès relativement à l'ensemble du système, presque. Dans d'autres systèmes, maintenant, c'est bloqué. Mais il demeure que c'est quand même une sorte très privilégiée. Il y a également d'autres vulnérabilités sur Linux qui sont sorties que je n'ai pas listées. Sudo étant pour moi le plus important en l'occurrence, mais il y a beaucoup d'autres éléments de vulnérabilité dans le kernel de Linux dans la dernière semaine. Donc, corrigez vos différentes instances de Linux que vous avez le contrôle dessus ou tout vérifier sur vos fournisseurs qui ont des ou qui vivent sur des Linux en dessous, que ces correctifs-là soient déployés. Plusieurs vulnérabilités de Cisco en cours d'utilisation. J'en avais parlé des vulnérabilités de Cisco. Tout équipement en périphérie, notamment les routeurs, les firewalls et tous ces équipements-là, sont d'autant plus vulnérables que ce que vous avez à l'intérieur de votre réseau, sont exposés à un univers excessivement hostile. Plus le temps avance, plus l'hostilité augmente. Donc, de vous assurer que ces équipements-là soient à la fine pointe des correctifs qui sont disponibles au plus vite que vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas vérifier la stabilité de ces correctifs-là dans le déploiement, assurez-vous d'avoir des solutions redondantes, résilientes, qui permettent de corriger très, très rapidement dans des délais de 24 à 48 heures maximum maintenant, puisque le temps ne permet plus de vivre ce qu'on faisait avant, d'attendre quelques semaines ou quelques mois avant le déploiement des correctifs. Trois failles dans OpenSSL, un élément très, très important qui appuie énormément l'Internet à l'heure actuelle. Malgré la débandade qu'il y a eu à peu près 7-8 ans de ça sur OpenSSL, c'est quand même un élément qui demeure important et vivant sur Internet. Donc, corrigez vos déploiements de OpenSSL souvent sur des serveurs Apache, NGX ou dans votre navigateur, mais assurez-vous que c'est corrigé dans vos différents éléments. OneLogin a connu un bug de sécurité, si on veut, qui permet justement d'utiliser les clés d'API pour aller voler les jetons ou IDC. Donc, vous assurez que tout ça est corrigé, que votre déploiement OpenLogin, si vous êtes un utilisateur de cette solution-là, soit corrigé et justement non vulnérable à l'heure actuelle pour protéger vos identités. Plusieurs vulnérabilités dans Splunk, pas majeures, mais quand même, considérant que Splunk contient beaucoup d'informations sensibles des organisations et que les informations d'attaque s'y retrouvent, les informations de télémétrie. Donc, quand même, soyez vigilants sur les correctifs à appliquer sur ces solutions. Ne tardez pas, même si en général, elles sont à l'interne de votre organisation. Problème avec Windows 10 qui est en fin de vie incessamment, qui va arrêter d'avoir des correctifs. La semaine dernière, je mentionnais qu'elle avait exposé des correctifs, une continuation des correctifs pour l'Europe et les États-Unis. Je n'ai pas lu les détails, fait que je ne suis pas très au fait de ce que ça comporte. Mais l'ensemble de ça, puis il y a un article conséquent par rapport à ça qui suit cet élément-là sur tous les systèmes d'exploitation désuets qui vivent dans nos entreprises. L'article parle de undead, de zombies, des systèmes d'exploitation de zombies qui viennent dans nos entreprises. Puis ça amène un débat beaucoup plus grand sur la durée de vie des systèmes d'exploitation, ce qui souvent est sous-estimé par les opérateurs ou les développeurs ou les vendeurs de ces logiciels, Windows étant un exemple le plus connu. Ce n'est pas le seul, mais d'amener dans un environnement où il n'y a pas de réflexion à long terme et l'appétit commercial prend le dessus sur tout. À ce titre-là, et d'ailleurs, c'était une très bonne idée de Microsoft d'avoir transformé Windows 10 en espèce d'abonnement permanent, donc de continuation dans le temps, justement pour limiter ce genre de choses-là. Et la bascule vers Windows 11 est à mon sens, un désastre et un abandon de cette capacité-là des entreprises à suivre le rythme, donc de modifier de tout ce que ça amène comme correctif. Et donc, ça ramène dans les problèmes anciens qui, au lieu d'appliquer des correctifs à tous les mois, maintenant de faire des migrations majeures et qui sont beaucoup plus coûteuses et beaucoup plus lentes à faire que l'application de correctif. Donc, je trouve ça un peu triste que Microsoft ait abandonné cette idée-là d'avoir juste une base de OS qui vive éternellement, mais qui progresse également en même temps, donc ne stagne pas, mais avance dans le temps. Donc, on se retrouve dans l'ancien monde où on doit migrer à intervalles réguliers et l'expérience a démontré que ça ne fonctionne pas, que les entreprises ont de la difficulté à migrer et les consommateurs résidentiels ou le consumer, les utilisateurs non entreprises ont tendance à notamment rien faire avec ça. Et dans certains secteurs particuliers, notamment tout ce qui est industriel, santé et des éléments comme ça, où c'est très compliqué d'appliquer des correctifs ou de migrer ces versions-là, où il y a même des équipements qui ont des versions de Windows, même jusqu'à Windows XP, en l'occurrence, qui opèrent des machines industrielles qui coûtent plusieurs dizaines, c'est pas des centaines de millions de dollars, donc ne sont pas prêts à être changés. Donc tout ce regard-là est un peu particulier. Je pense qu'on a un peu de négligence globalement par rapport à cette situation-là. Et je crois que c'est un endroit où le législateur devrait intervenir sérieusement. Je ne l'ai pas vu autant en Europe, encore moins aux États-Unis, d'intervenir sur cette forme de stabilité-là, d'assurer qu'il y a comme un univers qui permet justement de maintenir dans le temps et, somme toute, de réduire les vulnérabilités qui sont associées à ce genre de désuétude des systèmes d'exploitation qui s'assure qu'il y a une pérennité dans le temps. De toute façon, si on prend l'exemple de Windows 10, avec Windows 10 a une durée de vie de type LTS, Long Term Support, qu'on retrouve beaucoup dans les systèmes open source, notamment commercialisés open source, qui fait que ces systèmes-là sont garantis d'avoir une durée de vie définie, connue et prévisible, ce qui permet au minimum aux entreprises de déterminer leur cycle de vie. Là, à ce moment-là, ça devient plus transférer le fardeau, c'est un axe, ou d'avoir une forme de durée de vie ou d'avoir un système défini qui une durée dans le temps qui est quasi infinie, mais sur la base d'un abonnement ou peu importe la stratégie, parce qu'il faut quand même financer le développement et l'application des correctifs de ces systèmes-là dans le temps, donc de voir comment on peut faire ça. Mais bref, on ne peut pas vivre avec cet état-là de fait comme c'était dans les années 90 et 2000, de cette espèce un peu de désinvolture dans laquelle on était, où ce n'était pas grave d'avoir des systèmes incomplets ou des systèmes qui pouvaient disparaître du jour au lendemain ou qui, pour une raison commerciale, étaient abandonnés pour une version qui était plus rentable pour l'entreprise. Donc, de changer un peu la réflexion par rapport à ces éléments-là et qu'on est dans les années 2020, c'est le temps de changer, c'est le temps d'aller ailleurs et l'importance des TI dans nos vies, ou du numérique ou du digital, tout dépendant du bord de l'Atlantique qu'on est, est sans conteste très importante. On ne peut plus vivre sans. Donc, cette place-là doit être considérée. Je crois que le législateur n'est pas réveillé sur ces éléments-là, en tout cas pas suffisamment réveillé pour nous amener à un meilleur contrôle et d'inciter les entreprises à mettre leurs ressources aux bonnes places et charger le vrai prix qui va avec, parce qu'ils sont là pour faire de l'argent aussi. Là. Donc, bref, d'aller de tout amener le marché vers ce genre de choses. Fin de cette section-là, un grand rant sur ce volet-là. J'en ai d'autres dans cet épisode-ci, fait que c'est pour ça que je vais hyper vite parce que j'ai vraiment beaucoup de contenu, plus quelques rants à bien placer. Section suivante, c'est privacy, vie privée. Il y a quand même aussi beaucoup de choses cette semaine, la semaine dernière, qui s'est passé. Donc, WestJet a perdu 1,2 million de données consommateurs surveillées, probablement qui vont vous donner des éléments pour compenser par rapport à ce genre de choses-là. Mais en même temps, c'est plus tellement une nouvelle en soi, mais je trouvais important de quand même le mentionner puisque ça ramène, puis ça va faire un lien avec d'autres nouvelles que j'ai aussi. Donc, de ramener ça dans le paysage, puis de voir qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit réfléchir les choses, puisque toutes les entreprises sont incapables de protéger. Wesel, c'est une grande entreprise, il n'est pas capable de protéger. Il y en a eu d'autres, puis d'autres nouvelles aussi qui vont avoir ça que je vais exposer. Ils ne sont pas en mesure de le protéger malgré les financements, malgré l'argent qu'ils ont en leurs mains. Donc, il faut quand même commencer à regarder sur le fait que c'est inévitable, les failles ou les fuites de données, et donc de réduire la valeur des données pour aller avec ça. Mais j'en adresse ça un petit peu plus loin. Et d'ailleurs aussi, je vais en profiter, là, je fais un petit aparté que j'aurais dû faire en intro que j'ai oublié de faire. Dans les épisodes, notamment dans ce que je discute, il y a des choses qui vont être abordées avec Charles Hamilton plus tard cette semaine dans les épisodes. Là, j'ai 4-7 épisodes cette semaine. Ceci c'est dans le premier, le deuxième qui était sur le DEFCON notamment et tout ce qui est Bloodhound. Et j'ai d'autres choses. Vous avez beaucoup de contenu super sharp cette semaine. Mais on va revenir sur avec Charles Hamilton, je reviens surtout notamment sur le fait que les problèmes existent depuis trop longtemps et on ne les règle pas. Mais bref, dans le privacy, c'est un peu ce volet-là qui est fait, donc c'est un peu décevant, mais il va falloir changer un peu notre regard là-dessus parce que clairement, on ne fait qu'en parler et il ne se passe rien. Et le shame que certains groupes ou certaines personnes font n'a aucun effet sur résorber ce problème-là. Donc, ce n'est pas un avenue qui a démontré d'avoir une capacité de régler le problème. Il va falloir réfléchir à d'autres choses, notamment avec le législatif. J'ai l'impression que nos lois ne sont pas adaptées au vrai problème. Mais bon, bref, j'en parle un peu plus loin parce que j'ai une plus grosse nouvelle et plus croustillante à ce niveau-là. ICE achète des données de millions d'utilisateurs de téléphones tous les jours. C'est un peu sur le contexte que les forces de l'ordre américaines, il y avait eu un débat il y a quelques mois avant l'administration Trump sur le fait que le FBI achetait des données dans les data brokers. Avec le changement d'administration, il y a moins de pudeur à cette affaire-là. Fait que donc, toutes les données qui sont dans les data brokers, notamment les données des téléphones cellulaires, sont maintenant accessibles. Donc, la localisation de ces téléphones-là est également accessible. Donc, on est en train de transformer le fait et un peu ce qu'on pouvait anticiper, que toute cette collecte d'informations-là puisse commencer à être utilisée par un État un peu plus totalitaire, comme ce que les États-Unis sont en train de devenir. Donc, de vouloir contrôler les populations, d'exposer les données, d'exposer les choses. Donc, les libertés sont énormément atteintes des individus. Les présomptions qu'on a de se déplacer librement, malgré que nos données soient téléporter dans des centres de données, que tout le monde sait, que toutes ces compagnies sachent ce qu'on fait, nous semblait jusqu'à tout récemment anodin. Pour les citoyens américains, c'est juste terrible cette situation-là d'être exposé maintenant à ce genre d'éléments-là de surveillance contre leur gré ou contre leur compréhension. Et pour les citoyens non américains qui ont également leurs données dans les data brokers américains, cette situation est beaucoup plus compliquée. Le Canada étant une place où on est de par proximité énormément dans les data brokers américains, donc ça pourrait devenir nous mordre éventuellement. Une situation qui est un petit peu désagréable. Et les lois américaines pré-Trump offraient des pouvoirs supplémentaires quand même aux services frontaliers, des éléments comme ça. Donc, on change l'univers, les technologies qui, à mon avis, devaient nous amener vers une forme de libération et d'ouverture, nous amènent plus vers une forme de contrôle, ce qui me m'attriste énormément par rapport à ce que j'anticipais à une autre époque d'adolescence, dans laquelle j'ai déjà parlé dans plusieurs autres épisodes. Amazon va inclure la détection faciale dans les caméras, les satellite ring. C'est assez troublant. Les autres le font aussi, donc c'est un répandu. Par ailleurs, on l'a vu notamment avec Amazon, ça a un lien avec la nouvelle précédente. Les forces de l'ordre vont utiliser cette information-là pour repérer les gens. Donc, le fait que ces données-là soient faites, que ces caméras-là, qui sont tout le temps en lecture de leur environnement, puissent identifier les gens, donc de localiser les gens en tout moment parce que ces caméras-là vont les avoir repérés, nous amène dans un autre élément de dystopie. Et pour les États-Unis, ça va nous amener aussi dans un contexte de plus grande capacité à contrôler les masses, sachant aussi que ce qui est un peu ironique dans le contexte d'Amazon, beaucoup d'employés de livraison d'Amazon sont des immigrants aux États-Unis, mais pas juste aux États-Unis, à travers le monde, c'est comme ça aussi, parce que c'est des emplois qui sont peu payés, mais qui permettent à ces premières générations d'immigrants-là de mettre un pied et de grandir dans un pays, de devenir des citoyens, et finalement d'avoir à la seconde et la troisième génération d'avoir une contribution très importante dans la société, mais de pouvoir les tracer. Fait quand on disait que ICE achète les données de localisation téléphonique, mais ICE va pouvoir acheter les données de ces éléments-là, et notamment tous les livreurs sont potentiellement des cibles de ICE également. Fait qu'on va arriver dans un système qui est un peu particulier, et toutes les conséquences non prévisibles de ces technologies-là sont en train de se matérialiser, et c'est un peu fascinant et un peu terrifiant de voir ces éléments-là se dévoiler devant nos yeux. À mes yeux, ce qui était du Black Mirror il n'y a pas si longtemps est en train de se transformer en quelque chose qui est beaucoup plus proche du réel. Le Electronic Foundation, Free Foundation, en tout cas, bref, le FF, j'ai oublié le titre long en anglais, a sorti un article qui est intéressant puis qui nous amène une réflexion un peu dans la même ligne de ce que je mentionne. C'est que tout dommage à la privacy, à la vie privée, est un préjudice, un préjudice en l'occurrence. Donc tous ces préjudices-là sont réels, sont importants, et c'est pas parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont ou que ça, ils sont durables. Et ces dommages-là se matérialisent. Je parlais des caméras Ring qui vont commencer à faire de la reconnaissance faciale, mais toute la détection des plaques automobiles, tous ces éléments-là qui nous permettent finalement de nous tracer, tous ces trackers-là qui vivent et qui nous permettent de savoir où sont les gens à tout moment. Et on est sur le point de savoir, dire où est ma femme, et on va être capable de déterminer à quel endroit, si elle a visité des maisons dans ton entourage ou d'éléments comme ça. Donc, ça devient un peu troublant et nous amène dans un contexte de contrôle qui est toxique à mon sens, qui n'est pas compatible avec le volet de liberté et libertarien qui est aussi promu par les États-Unis notamment. Donc, on est dans un contexte où je suis trop intéressé par mes voisins, quand dans les faits, personnellement, je m'en fous un peu de ce qu'ils font. Ils sont libres de faire bien ce qu'ils veulent et de ne pas avoir à s'inquiéter de mon jugement. Mais ces technologies nous amènent dans une réflexion qui n'est plus la même. Et tous ceux qui sont trop curieux, disons, notamment l'État qui commence à l'être un peu trop, vont commencer à pouvoir utiliser ces données-là. Desjardins, revient dans les nouvelles et c'était un des éléments que je voulais aborder parce qu'il y a plusieurs choses par rapport à ça. Desjardins réapparaît dans les nouvelles parce que semblerait que 50 000 dossiers de Québécois se retrouvent dans le dark web. Donc essentiellement, puis ce qui a été ce qui est mentionné jusqu'à présent, c'est les données de 2019, la fuite originale, qui aurait trouvé à se rendre jusque dans le dark web. Jusque-là, il n'y a pas d'étonnement jusque-là à ce moment-là. Il y a déjà des gens qui sont en train de déchirer leur chemise sur les réseaux sociaux de cet élément-là. D'autres, un peu plus comme moi, qui sont un peu plus, peut-être pas indifférents, mais qui relativent davantage la situation, puisque c'est des vieilles données qui datent de, quand même déjà de beaucoup d'années. Et en plus de ça, au-delà du fait que c'est des vieilles données, on fait une grande histoire avec ces éléments-là, puis j'en faisais un peu référence sur le vol des données de WestJet. Puis on parle de NAS dans le cas de Desjardins, d'adresse. Le problème qu'on a, c'est un problème qui est canadien, américain aussi en bonne partie, c'est qu'on a donné, on a structurellement donné trop d'importance au numéro d'assurance sociale, qui est fondamentalement qu'un numéro de dossier à l'Agence du revenu. Ce numéro-là ne devrait être utile que pour déclarer à l'Agence du revenu nos revenus, étant donné les payes, les placements, les choses comme ça. Ce qui est son utilisation principale et sur quoi on devrait être de toute façon, ce qui est fait. Par ailleurs, les institutions financières ont pris un raccourci et ont utilisé ce numéro-là parce qu'ils doivent l'utiliser pour rapporter des informations à l'Agence du revenu fédéral ou de votre province dans un contexte canadien. Et on a fait un numéro de 6 000 dossiers pour eux-mêmes. Donc, ils ont transformé, ils ont dénaturé la fonction de ce numéro-là. Et là, devient tout le problème parce qu'en ayant donné une valeur supplémentaire à ce numéro-là, qui n'est pas juste un numéro de dossier, mais qui devient un numéro, une forme de clé ou une forme de clé unique qui nous identifie dans l'ensemble des systèmes et qui nous permet d'accéder à avoir du crédit. Et toutes ces affaires-là sont, tant qu'à moi, une déviation de l'usage original de ce que le numéro d'assurance sociale doit être. Et là, ça devrait être changé. Et ceux qui en font cet usage-là ou qui n'en font pas un bon usage devraient être punis dans l'ensemble du système. On devrait avoir une loi, on devrait avoir un élément qui devrait interdire l'usage en dehors de ça. Ou si on veut faire une demande de crédit ou des éléments comme ça, le numéro d'assurance sociale ne devrait être qu'un élément qui nous permet d'aller chercher de l'information, mais qui ne devrait pas me mener jusqu'à l'ouverture de crédit, un des problèmes qu'il y a, ou qui ne devrait pas mener jusqu'à le vol d'identité. Je trouve ça un peu farfelu que mon seul numéro d'assurance sociale soit suffisant pour recréer mon identité et m'a volé. Notre système est brisé. Donc, le fait d'avoir donné cette valeur-là à cette donnée-là, qui, somme toute, c'est comme mon numéro de dossier chez mon fournisseur télécom, c'est comme mon numéro de dossier chez mon fournisseur Internet, c'est comme mon numéro de dossier, peu importe. On est un peu dans un contexte où mon numéro de dossier a pris une valeur qui est démesurée. Donc, cette nouvelle-là, oui, c'est important dans un contexte dans lequel on est, mais je pense qu'on devrait arrêter de le réfléchir de cette façon-là, puisque notre système est fondamentalement brisé. Et on devrait réparer l'élément brisé de notre système au lieu de s'entêter à avoir des enquêtes de crédit. Pas des enquêtes de crédit, mais une surveillance de crédit et tout ce que ça comporte, parce que tout cet univers-là a été créé pour les banques, essentiellement. Et ces banques-là ont créé le problème en créant ce système-là. Donc, je crois que c'était à eux à changer la façon que le système fonctionne pour régler le problème qu'ils ont créé. Parce que si on remonte à la création du numéro d'assurance sociale, il n'y en avait pas de préoccupation. C'était fait pour donner un numéro fiscal. Et c'est pour ça que ce numéro-là est très difficile à changer parce que structurellement, il n'a jamais été pensé pour ce qu'on en fait maintenant. Donc, soit on arrête d'utiliser pour ce qu'il est maintenant ou soit on permet de changer comme un numéro de carte de crédit parce que là, il faudrait être cohérent dans tout ça parce que sinon, on fait juste entretenir un problème. Et à ce moment-là, je trouve que les institutions et le gouvernement sont responsables du problème dans lequel on est et qui pourraient être réglés d'une façon assez simple et nous sortir de cet élément-là Et ça dépasse juste le fait de geler le grésil ou ces éléments-là. Structurellement, c'est brisé. Donc, il faudrait que structurellement, il répare comment le système s'est brisé. Donc, d'arrêter de faire ce genre de choses-là. Et ce qui mènerait au fait que le vol des identités qu'il y a eu chez Desjardins en 2019 n'aurait pas de conséquences si graves que ça. Et jusqu'à maintenant, jusqu'en 2025, quand on s'énerve, que les éléments chez WestJet ne sont pas si graves que ça. Et qu'ils ne vivent que des pénalités financières sur le fait qu'ils ont échoué à protéger. Ça, c'est correct parce qu'il faut que ces fiduciaires-là de nos informations soient quand même responsables puis qu'ils mettent les mesures en place. Mais sachant que c'est impossible d'arriver à 100% de protection, il faut aussi arriver au fait que de diminuer la valeur de ces informations-là. Et de fait, si on diminue la valeur de ces informations-là, ben, un, on n'en parlera plus des nouvelles. Les voleurs ne s'y intéresseront plus. Donc, on va changer le système et on va déplacer les problèmes ailleurs. Cela étant dit, je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la pleine compréhension du système pour être capable d'énoncer quelque chose. Je suis sûr qu'il y a des gens très brillants au Canada, aux États-Unis, parce qu'ils ont sensiblement le même problème que nous, qui n'est pas vécu en Europe. Nous autres, on a d'autres défis qui ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres. Ils pourraient s'asseoir ensemble et établir un nouveau système et mettre en désuétude le système actuel et nous soustraire de ces problèmes-là de quels beaucoup, beaucoup de gens vivent et ont des conséquences malheureuses sur leur vie de stress et de ce qui va avec ça. Fini mon rant. On va passer à la suivante. Puis dans le fond, j'ai un autre rant aussi parce que finalement, j'ai une semaine de rant là, parce qu'il y a vraiment trop de nouvelles qui me gratouillent. Il y a le UK qui est en train de revenir pour avoir des backdoors dans l'encryption du stockage chez Apple. Et il y a l'Allemagne qui revient avec la surveillance dans les clients de clavardage de chat. Les deux nouvelles sont similaires, mais pas tout à fait à la même place parce qu'ils n'adressent pas exactement le même niveau de choses. La première, c'est un retour du fait que le Royaume-Uni veut être capable d'aller inspecter, donc les forces de l'ordre du Royaume-Uni d'aller inspecter les contenus. Là, j'ai pas lu la nouvelle spécifiquement, puis j'ai juste lu en diagonale parce que ça mérite un peu ce genre de choses-là. Pas parce que ce qui initie le besoin est inexact. C'est vrai qu'il y a un besoin d'assurer ce genre de choses-là. Mais je crois qu'on instrumentalise certains éléments pour briser des éléments de protection qui ne peuvent pas être brisés de cette façon-là. Pour le rescrit du Royaume-Uni, je trouve ça fatigant, cet élément-là, un peu comme j'avais parlé sur le podcast au GoSec avec Catherine. L'Internet n'est pas bâti, n'a jamais été bâti pour ça, et on essaie de mettre des systèmes et des moyens en place pour faire une forme de surveillance. Si ça se limitait à l'objectif qui est voulu, généralement, c'est la pornographie, l'accès à la pornographie ou la pornographie juvénile qui sont des affaires, qui sont des éléments socialement qu'on est capable de dire qui sont inacceptables. Donc ça, il n'y a pas de débat sur cet élément-là, ou en tout cas, il y a peu de débat dans certaines circonstances pour ce qui est de l'accès à la pornographie chez les adolescents, mais pour ce qui est de la pornographie juvénile, ça, il n'y a pas de débat. Si l'objectif étant juste ça, jusqu'à preuve du contraire, là, parce que j'ai pas vu de données qui m'ont montré que c'était endémique. Si effectivement c'était endémique, si on avait un problème majeur, qui effectivement, disons, si on parle de niveau endémique, disons, un enfant sur deux a la potentialité de se retrouver dans un contexte de violence ou de violence sexuelle, j'aurais pas beaucoup de difficultés à accepter l'idée qu'on soit surveillé pour régler ce problème-là. Mais ça voudrait dire que socialement, on a d'autres problèmes à régler. C'est parce que là, on est comme en train d'utiliser la technologie pour régler un problème qui est, à mon avis, social, qui aurait d'autres moyens d'arriver à neutraliser ces réseaux-là. Si on parle de pornographie juvénile, je ne vois pas le lien de causalité entre l'accès au chiffrement, au clé de chiffrement et la neutralisation des réseaux de pédophiles essentiellement. Donc, ce lien de causalité-là ne m'est pas apparent. Et probablement qu'il n'est pas bien expliqué parce qu'ils ont politisé les choses. Mais si on arrive à me faire un lien de causalité fort, j'aurais pas de difficulté à accepter l'idée. Pour le moment, le lien de causalité est faible et j'ai l'impression que c'est un raccourci qui est pris pour faire ça et qui va mener à d'autres choses. Un peu comme on voit dans les contrats d'entreprise qui commencent, ouais, on ne fera rien de vos données, puis d'un coup, ils changent de façon unilatérale, chose où on va utiliser vos données pour entraîner le AI, ce qu'on a vu beaucoup ces temps-ci. Fait que c'est ce danger-là aussi, puis si on voit ce que les États-Unis font avec cette bascule de vouloir utiliser ces données-là à plus large que ce qui était prévu initialement, ben on peut prévoir que si le Royaume-Uni demande un accès élargi aux données qui sont faites pour un objectif X au début, que cet objectif-là soit élargi avec le temps pour des raisons qui vont devenir justifiées parce que. Donc, c'est cet élément-là ou cet effritement-là de la vie privée qui m'inquiète énormément à travers ça pour des choses qui, je crois, pourraient être réglées autrement, de d'autres façons ou de d'autres éléments qui permettent d'avoir un succès plus grand. Mais encore là, je ne m'y connais pas assez. Je peux me tromper. Donc, bref, ça me dérange beaucoup qu'on vienne envahir l'espace privé des gens pour des choses qui ne présentent pas un danger social si grand que ça. Mais encore là, bref, j'aimerais voir des études qui démontrent le lien de causalité pour que ce débat-là se soit mis sur la place publique de façon honnête et qu'on n'utilise pas des demi-vérités ou des demi-choses pour arriver à casser le chiffrement. Parce que quand on va casser le chiffrement, ben on le casse pour tout le monde, ça a des conséquences, c'est très important. Donc, d'amener ce débat-là, parce que ça va détruire, puis ça va amener, puis la conséquence généralement de cet élément-là de briser, disons, son brise le chiffrement comme le Royaume-Uni veut faire, ben les vrais criminels, ceux qui on veut vraiment faire quelque chose avec, puis les mettre en prison, mais vont changer leurs moyens et vont migrer vers des moyens plus underground, moins visibles, et vont les rendre encore plus difficiles à capter dans les mailles du filet qu'on a actuellement. Donc, je le vois plus comme étant un élément qui va pénaliser la capacité d'arrêter le problème qu'on veut arrêter dans lequel la manœuvre est faite. Puis si on retourne en Allemagne, ben on retrouve exactement ce que Apple avait essayé de faire il y a plusieurs années avec CSAM et ainsi de suite avec le client-side scanning, qui avait une levée de bouclier très importante et lequel Apple avait abandonné, même si l'idée est quand même moins invasive que celle proposée par le Royaume-Uni, demeure un problème puisqu'on donne la capacité de fouiller sur des appareils personnels à ça, et les règles, surtout dans le cas de ce qu'Apple a fait, étaient très balisées, étaient très, très étroites. Dans le cas de l'Allemagne, c'est, en tout cas, moi dans l'article, c'est un peu plus vague, ce qui permettrait à l'État, donc à l'Allemagne, de changer les règles au fur et à mesure, donc pour aller jusqu'à des contrôles de population. Et si on va parler dans des populations elles ont racialisé ou des minorités, mais on pourrait trouver à ce moment-là toute conversation de type LGBT pourrait être visée par l'État. Autant dans le cas du UK qui a accès à l'ensemble du contenu des données dans le iCloud, autant au Royaume-Uni où ils sont capables de scanner et modifier les règles de vérification sur les choses, puis parler de AI sur les... Fait que, bref, ça ouvre la porte à de l'abus. Puis c'est peut-être le... Somme toute, c'est l'abus qui m'achale là-dedans. Pas que comme citoyen honnête, j'ai quelque chose à cacher sur ces aspects-là d'illégal. J'ai rien d'illégal à cacher. Ma vie privée, je veux la protéger quand même. Mon numéro de carte de crédit, je cherche à le cacher parce qu'il n'est pas du genre commun. Et jusqu'à temps qu'on change l'usage du NAS, j'essaie de le cacher aussi parce que c'est pas ça. Mais de l'autre côté, de faire envahir ma vie privée sur des choses aussi floues que ça m'achale beaucoup. Et en tout cas, bref, ça je suis très inconfortable. Bref, fini du rant. Il y a beaucoup d'axes là-dessus. Il y a beaucoup de place à débat. Par ailleurs, et pour régler les problèmes qui sont mentionnés, si on parle tout, puis j'ai eu le cas de la pornographie aux États-Unis dans la dernière semaine, là c'est la pornographie juvénile, ce que l'Europe veut faire essentiellement, là, dans les grandes lignes. C'est des moyens, avec les technologies qu'on a, ou d'adapter les technologies qu'on a pour réussir à atteindre l'objectif, qui est un très bel objectif par ailleurs, puis c'est une très grande tristesse que des enfants puissent subir, peu importe la violence qu'ils puissent vivre. Si on peut trouver des moyens de bloquer et d'arrêter ça, mais dans le respect des autres, j'aimerais qu'on amène ça dans le débat, qu'on amène la conversation et qu'on ne se polarise pas sur le fait « non, c'est mal, oui, je veux absolument », puis qu'on soit juste confrontant à ce moment-là et qu'on trouve une solution technologique, en l'occurrence, qui nous permette à la fois de protéger les enfants, soit d'être exposé à de la pornographie ou d'être entraîné dans des réseaux de pornographie, ce qui, dans les deux cas, est très toxique. Si on pouvait trouver quelque chose qui, en même temps, respecte la vie des autres et ne puisse pas être abusé par un État dont on va glisser vers un élément un peu plus totalitaire, ben, j'aimerais ça entendre, voir, puis je suis sûr qu'il y a des éléments technologiques qu'on est capable d'arriver à ce moment-là qui respectent la vie privée, mais en même temps qui permettent d'intercepter la grande partie des gens qui devraient être mis en prison pour des actes qui sont vraiment, vraiment très, très odieux en ce sens-là. Ça fait pas. Je vais faire mon rant là-dessus. Puis là, on parle encore de breach. Des compagnies d'assurance ont laissé fuiter. Ça revient avec la nouvelle de VoyageJet. Ça vient avec le fait qu'on donne la valeur et des données qu'on ne devrait pas. Signal vient de déployer une amélioration à son protocole post-quantum en mettant un troisième ratchet à son élément, donc empêcher le retour arrière, donc élaborer. Allez lire le blog post, est super intéressant, super technique par ailleurs, mais super intéressant donc de voir comment tout ça se matérialise et comment on peut mettre ça en place. Donc, de voir ces éléments technologiques-là se déployer, puis c'est toute cette ingéniosité pour nous préparer à ce qui s'en vient devant nous. Puis par ailleurs, je vais probablement avoir un collaborateur quantique dans les semaines et mois qui s'en viennent. Donc, je vais pouvoir explorer ce sujet-là et vous partager tous ces éléments-là qui, justement, où on s'en va tranquillement. Et qu'en tant que praticien, c'est important de savoir où on s'en va. Microsoft a déployé des éléments de clonage de voix, comme Apple aussi, par ailleurs, sauf que le volet de Microsoft est beaucoup plus étendu dans son système d'exploitation et dans ses logiciels, ce qui fait que ça a beaucoup plus place à l'abus et à la réutilisation pour les malveillants. Comme c'est déjà un énorme problème de voir la réutilisation de la voix pour tromper dans les appels, faire de la fraude, le fait que Microsoft le rende aussi facile à travers des API, à travers différentes structures de son système d'exploitation et de ses logiciels, ça devient un peu troublant de voir cet élément-là qui était parti sur une bonne idée, mais de gens qui n'avaient peut-être pas l'esprit suffisamment mal tourné pour voir les conséquences de ce qui pouvait arriver avec cette technologie-là et comment les gens pourraient l'utiliser. Donc, on est dans un contexte comme ça, donc on est exposé à une situation qui pourrait devenir très problématique, puisque le clonage de la voix est un des éléments les plus faciles à l'heure actuelle et les plus utilisés par les malveillants. Donc, on vient de donner un autre outil aux malveillants pour œuvrer là-dessus, jusqu'à temps qu'on démontre que ce soit. Mais bref, cela, comme est inclus dans les systèmes, il n'y a pas de coût, contrairement aux autres systèmes qui sont en place. Dans la nouvelle privacy, Discord a une fuite de données avec des photos, des éléments comme ça. Personnellement, je comprends qu'on doive prouver Know Your Customer. Par ailleurs, ces scans de photos-là, on devrait s'en débarrasser, on devrait s'appuyer sur des systèmes plus robustes pour vérifier l'identité et ne pas stocker de ces éléments-là. On l'a vu avec T également, qui a été abusé, que justement des informations de cette nature-là, photos, des cartes d'identité ont été exposées. Donc, il faudrait peut-être se débarrasser de ces éléments-là, aller vers des choses plus modernes. Par ailleurs, ce qu'on voit dans d'autres pays, c'est pas fait dans un esprit ouvert et de liberté. Donc, on est un peu dans un un drôle d'élément, mais bref, il faudra arriver à un élément d'identité Internet. Un peu ce que le gouvernement du Québec essaie de faire, ce qui est des projets qui roulent au Canada, mais qui sont pas matures encore, qui est partiellement déployé ou complètement en France notamment, mais et dans d'autres pays de l'Europe, du grand ensemble de l'Europe. Donc, de voir comment on peut faire ça pour éviter justement d'exposer des éléments comme ça qui peuvent faciliter le clonage de nos identités et d'aller ailleurs. Après tout ce rant, tous ces éléments-là, il y a quand même du bon cette semaine, si vous avez suivi jusqu'à présent, puis il y a même il va y avoir de l'insolite. Ce qui est des gains qu'on a eus cette semaine qui sont très importants. Le Clusif a diffusé un guide de cybersécurité des systèmes industriels. Allez voir dans les show notes, c'est disponible sur leur site. Je trouve ça super intéressant que qu'ils diffusent des publications comme ça. Par ailleurs, si vous êtes déjà, si vous aurez déjà dans le domaine, c'est un document qui est fait pour les gens qui commencent, donc qui est un peu plus éducatif, qui amène plus pour des entreprises ou des gens qui ont une connaissance rudimentaire de la sécurité dans un système industriel. Mais c'est important d'amener ces gens-là à comprendre et tout ça. Donc, de ce côté-là, Claude 4.5, Sonnet 4.5, prétend avoir une augmentation de la sécurité et des guardrails qui sont déployés avec. Ils ont utilisé des moyens d'analyse avec des universités, du red teaming, des attaques réelles. Donc, ils ont testé ça à un point où, selon le compte rendu, Claude se serait rendu compte qu'il était dans des tests. C'était un peu amusant de constater que l'AI, qui est pourtant qu'un modèle prédictif, détecte qu'il est dans un état de test. J'aimerais ça voir qu'est-ce que ça représente quand il dit qu'il détecte. Parce que pour moi, ce n'est qu'un que c'est un modèle prédictif. Il n'y a pas de conscience, si on veut. Donc, le fait de détecter est un drôle de concept, en l'occurrence. Mais bref, il a détecté qu'il était en test de parce que les questions étaient drôlement formulées dans le temps. Donc, il y a une certaine capacité d'analyse, puis c'est intéressant de le voir, d'analyse de contexte, parce que sa fenêtre de contexte est quand même suffisamment grande pour qu'il soit capable de détecter que la vitesse des interactions est trop grande, que les changements de choses soient trop grands. Donc, c'est intéressant de voir que des comportements comme ça sont détectés, aperçus. Donc, c'est de voir, je ne sais pas si c'est dans l'entraînement lui-même ou dans les mesures de contrôle compensatoire autour qui viennent faire ça, mais c'est très intéressant de voir cet élément-là s'exprimer et comment le modèle est capable d'arriver à ce genre de choses-là. Google Drive Desktop rajoute un élément de détection AI sur les éléments. Donc, tout ce qui est potentiellement un fichier de rançon logiciel est intercepté. Donc, c'est un élément très important. Ce serait très intéressant de voir d'autres compagnies déployer ça, Dropbox par exemple, et qu'ils déploient dans le client, pas dans le serveur. Puis c'est intéressant ici que ce soit le client. Donc, en théorie, ne communique pas avec Google les informations, que c'est vraiment juste du côté client. Mais je trouve ça très intéressant, cet élément-là. MIPS a sorti une nouvelle version. Je le mentionne parce que c'est un produit que j'adore, qui est tellement utile dans l'échange d'informations entre les compagnies pour se défendre. Microsoft modifie ses API pour Exchange et Teams, justement pour augmenter la sécurité, pour augmenter les paramètres, laisser ça plus sécuritaire par défaut. C'est tard pour le faire, mais c'est quand même une bonne nouvelle qui commence à durcir ces API-là qui sont franchement beaucoup trop permissifs pour bien des raisons. Le client Outlook va cesser d'afficher les images SVG. J'avais mentionné dans la semaine, les SVG sont potentiellement dangereux parce qu'ils peuvent contenir du langage crypté. Puis je trouve ça une drôle d'idée de mettre du script dans une image, mais bref, on veut trop faire et on se crée des problèmes avec ça. Donc, on vient d'évaluer ce format d'image-là parce qu'on y a mis trop d'informations à l'intérieur de ci. Donc, on a donné la capacité de l'utiliser comme vecteur d'attaque. Fait que, bref, ces images-là ne sont plus affichées. Ben, s'ils sont dans un fichier joint, ils sont toujours capables d'être accédés malgré tout. Gmail, pour le côté business, maintenant permet le chiffrement bout en bout. même avec des clients qui sont en dehors de l'environnement de Google, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est de l'enchiffrement à bout en bout où les clés ne sont pas contrôlées par Gmail. Ce qui est d'autant plus intéressant que le contenu est vraiment protégé de Gmail et donne une certaine forme de souveraineté des données qui sont véhiculées comme ça, puisque Gmail ne peut pas les voir, il ne peut pas opérer dessus. Donc, c'est une bonne nouvelle, ce genre de choses-là. Il y a un équivalent chez Microsoft avec ce qui était AIP, les labels, et ainsi de suite. Le déploiement d'une clé qui n'est pas contrôlée par Microsoft est un peu plus compliqué par ailleurs, mais on est quand même des technologies comme ça, mais Google est allé directement dans un contexte clé non contrôlée par hasard. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et ça fait plusieurs années que c'est en cours d'opération, en cours de déploiement. J'avais mentionné Spreadsheet il n'y a pas longtemps. Ça fait plusieurs années que ça roule, qui intègre ces éléments-là. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour favoriser la souveraineté numérique, notamment. Dans les nouvelles plus diverses, que je n'ai pas réussi à classer dans un élément spécifique, Trifecta de problèmes avec Gemini, qui permettent justement de contrôler les guardrails, de faire du problème d'injection, de faire des éléments comme ça, de diffuser trop d'informations ou de leaker d'informations. Malgré les énormes efforts de Google à limiter, puis ils ont des très beaux frameworks pour expliquer comment utiliser et protéger, c'est très difficile à sécuriser du AI parce qu'il y a un volet qui est encore très imprévisible dans sa façon de réagir et de comment ça va interpréter une question, un prompt pour mener à des éléments supplémentaires, autant dans un contexte intégré avec Workspace, autant dans des éléments autonomes ou de agentiques. Donc, c'est un rappel assez fort que même des compagnies avec les budgets de Google ne sont pas capables de couvrir tout. Donc, dans vos propres déploiements, prenez cet avertissement-là, allez lire l'article pour comprendre les problèmes que Google a rencontrés, pour que dans vos propres déploiements, vous puissiez mettre au moins les leçons apprises par Google et vous assurer de vous protéger contre ce genre de choses-là. Mais c'est un panier de crabes en termes de protection parce qu'il n'y a rien qui est pensé pour ça et c'est une boîte qui est somme toute imprévisible sur ce genre de choses-là. Carbon a diffusé un article sur le fait que des cybercriminels ont essayé de soudoyer des journalistes de la BBC pour comprendre la BBC. Allez lire l'article. De toute façon, j'aime beaucoup ce que Carbon écrit. Son site écrit aussi très, très accessible, très intéressant, très, très humain. Mais allez voir parce que les attaquants vont prendre n'importe quel moyen pour casser les systèmes. Ils sont rendus à payer. Donc, c'est rendu dans un contexte où les gangs criminalisés ont suffisamment de moyens, vont infiltrer, vont faire des éléments comme ça. Ce ne sont plus que des attaques techniques ou des attaques de type manipulation à la rançon logicielle ou courriel ou phishing ou ainsi de suite. Donc, ils vont changer, ils vont être capables d'aller beaucoup plus loin quand ils ont des cibles à atteindre, quand ils ont des objectifs à atteindre. Donc, c'est très intéressant de voir ce pivot-là. Et ça l'amène à la nouvelle suivante où il y a un nouveau groupe d'APT chinois qui a été découvert, qui est beaucoup plus chirurgical dans ses façons d'accéder, de rentrer, et qu'on voit clairement dans son MO qui va qu'une cible d'information, c'est une cible à court terme et qui a des objectifs à atteindre. Donc, on est dans un contexte où on était des gangs criminalisés, mous, qui voulaient juste faire de l'argent, à des gangs plus organisés. Déjà, ce qu'on a vu avec la BBC, et dans le cas du groupe APT chinois, mais qui ont vraiment des missions, des objectifs clairs et qui vont les atteindre. Donc, on n'est plus dans l'univers des bisounours ou des calinours, tout dépendant du côté de l'Atlantique où nous sommes. Et tout a changé vraiment et c'est nucléaire en termes de différence en ce qui se passe. C'est pire maintenant. Et puis j'ai l'impression que ma lecture des nouvelles amplifie, ou en tout cas le fait de le verbaliser amplifie ma perception. Mais c'est hyper dangereux d'être exposé sans aucune protection à l'heure actuelle parce que ça a des conséquences très importantes, surtout pour les cibles de choix. Si on ne l'est pas, ils vont essayer de voler de l'argent, mais des cibles de choix, c'est encore pire parce qu'il y a des attaquants sophistiqués qui vont s'y prendre à nous, qui ont, ils ont des moyens. Corée du Nord, on avait les travailleurs en IT qui étaient frauduleux, qui essentiellement venait chercher de l'argent, donc il ramassait de la paye pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois avant qu'il soit détecté. Et de ce temps-là, rentrait des virus dans les entreprises pour exfiltrer de l'information. De ce modèle-là, la Corée du Nord a appris, a évolué et maintenant va dans d'autres domaines, donc sont rendus plus loin, vont dans le domaine de la santé, l'industriel, et ainsi de suite, et ont appris de leurs erreurs, donc de ne pas infecter le poste dès la réception, de se donner du temps avant de poser des gestes qui ont une potentialité de se faire détecter. Donc, d'avancer avec ce genre de choses-là. Donc, s'attaquer à d'autres choses et ils sortent maintenant du simple fait des États-Unis. Donc, ils vont dans d'autres pays, majoritairement anglophones, mais pas exclusivement. On les voit aussi en Allemagne, notamment. Donc, ils sont en train d'exporter ou de réutiliser ce qu'ils ont appris avec les États-Unis pour les travailleurs en Haïti, pour d'autres domaines maintenant, ce qu'ils vont avec ce genre de choses-là. Avertissement sur les extensions AI pour les navigateurs Chrome. Ceux-ci sont toxiques, surtout ils parlent dans ce cas-ci des outils d'intelligence artificielle parce que ça vient intéresser les gens. Soyez prudents. Si ce n'est pas des marchés standards, si ce n'est pas reconnu, il y a un danger associé à ça. On ne peut plus essayer de installer un petit plugin d'un dude qui a l'asperlophone, mais maintenant, généralement, le dude qui a l'asperlophone, c'est un attaquant qui se cache en arrière. Donc, on a vraiment changé l'univers complètement. Entre du côté d'essayage et de bienveillance du net à un complètement hostile. Donc maintenant, même les plugins sont rendus dangereux. Il faut être très, très, très prudent. Les groupes d'attaquants, principalement en Europe, s'attaquent aux routeurs cellulaires qui sont déployés dans plusieurs entreprises, dans plusieurs grandes entreprises, probablement industrielles majoritairement ou dans des lieux distants. Et ainsi de suite. Donc, ceux-ci sont utilisés pour faire des campagnes de spam par SMS, principalement, sont utilisés. Donc, comme ils ont des numéros légitimes, ainsi de suite, bon, ça rend ça beaucoup plus compliqué de poser des actions. C'est l'équipe de Sequoia qui l'a trouvé, avec qui j'ai probablement amorcé une collaboration dans les prochaines semaines, mois. Donc, c'est un très beau travail de leur part d'avoir repéré tout ça et d'analyser toute l'information. Allez lire l'article, c'est super intéressant. Et allez voir le blog de Sequoia directement si vous voulez aller plus de détails. À l'heure actuelle, au moment où on se parle, le shutdown est encore actif aux États-Unis. Il est depuis quelques jours. Celui-ci amène une réduction énorme des personnes, des travailleurs essentiels, si on veut, aux États-Unis, notamment en cybersécurité. Notamment dans l'administration des systèmes TI, et ça va l'amener une lenteur dans l'application des correctifs. Ça va amener une plus faible capacité à surveiller les infrastructures. Pour un pays comme les États-Unis qui est ciblé énormément par des cyberattaquants de très grande sophistication, cet état de choses-là n'est pas rassurant. Ça l'amène à une situation très complexe. Je ne sais pas s'ils vont être capables de s'en remettre. On va voir la durée, comment les choses vont se passer dans le temps, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. C'est un rappel aussi que les différents gouvernements à travers le monde qui sont un peu plus en austérité vont aussi tendre à couper dans les services TI et, incidemment, couper dans l'administration des systèmes, mise à jour et ainsi de suite. Donc, il n'est pas exclu que ces éléments-là soient aussi présents au Canada, en Europe ou d'autres, que les systèmes ne soient plus mis à jour aussi régulièrement qu'on devrait, même si ça devrait être des éléments qui ne devraient être non négociables à l'heure actuelle puisque ça l'amène nécessairement à des problèmes. L'Europe, l'ENISA a sorti un rapport sur les formes d'attaque. Pas de grande surprise. Je vous invite à aller lire le rapport quand même parce qu'il est très intéressant. Pour ceux qui travaillent dans le domaine, c'est très prévisible ce qui est là. Ceux qui travaillent moins en gestion d'incidents, c'est tellement là, les lire, qu'il y a quand même beaucoup de perles intéressantes à la tête de ce document-là. Belle recherche. C'est intéressant aussi également, puis pour moi, c'est nouveau de regarder du côté européen, mais de voir qu'il n'y a pas que les États-Unis qui parlent sur ces analyses-là, donc de voir des données européennes aussi pour augmenter le regard, la diversité de tout ce qui se passe. L'Autriche abandonne Office, s'en va vers LibreOffice, ce qui, à prime abord, fait comme d'autres institutions en Europe, ce qui est en soi une bonne chose au niveau de la souveraineté numérique, ce qui est un mouvement très fort en Europe à l'heure actuelle. Par ailleurs, comme Office et tout ce que ça suit a été largement exposé, la sécurité est beaucoup plus robuste qu'un LibreOffice à laquelle la sécurité n'a pas été exposée. Donc, on risque de voir beaucoup de vulnérabilités sorties dans LibreOffice dans les prochains mois et prochaines années. C'est un peu comme l'effet du Mac qui riait beaucoup de la sécurité de Windows à l'époque où Mac n'était pas en grand nombre, n'était pas exposé. Comme les choses ont changé, maintenant les Macs sont aussi exposés, donc aussi en problème que Windows. LibreOffice va vivre à peu près la même chose, donc il va être beaucoup plus exposé à un environnement hostile. Donc, on risque de voir. J'ose espérer que l'armée autrichienne va prendre les mesures nécessaires pour surveiller et mettre en place. Et ce qui est souhaitable également de toutes ces grandes entités-là qui basculent d'un office, d'une version d'une suite commerciale, une suite open source, que l'argent qui est sauvé soit partiellement réinvesti dans le développement de ces outils-là, justement pour rehausser la sécurité, rehausser les différents éléments, parce que c'est quand même plusieurs centaines de millions de dollars qui sont versés, en l'occurrence à Microsoft ici, ou à d'autres compagnies commerciales. Et cet argent-là pourrait être dévié vers de l'open source, donc tout le monde bénéficierait de ces améliorations-là, de cet argent-là, surtout dans un contexte de gouvernement où c'est de l'argent public. Et à mon sens, cet argent public-là devrait servir le bien public dans ce moment-ci et aider l'open source. Il y a un article sur les jetons JWT qui fuite. C'est un problème assez vaste. On vole les cookies notamment, on vole plein de choses. Donc, tout cet usage des jetons d'identité est un peu négligé. On l'a vu un peu dans le confinement. Il y a certains qui ont pris des raccourcis sur l'usage de ce genre de jetons-là pour certains systèmes. On ne peut pas aller traiter ça avec des évolutions parce que ce jeton-là représente la personne. Donc, si on le traite mal ou on l'utilise pour l'impersonnifier la personne, ça amène des risques, ça amène des choses. Donc, il faut être très prudent, pas stocker et ensuite donc d'amener toute cette réflexion-là. Et comme beaucoup de choses, comme le vibe coding, j'ai l'impression qu'on est face à des gens qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas l'expérience qui permet justement d'appuyer et d'avoir les bons réflexes par rapport à ce genre. Fait que soyez prudent si vous déployez ce genre de jetons-là, soyez prudent dans l'utilisation, dans la conservation de ce que vous faites avec ces jetons-là. Parce que ceux-ci sont très puissants en termes d'impersonnification d'identité. Dans la section, pas beaucoup de nouvelles, heureusement. Je termine, j'ai vraiment, vraiment beaucoup trop de nouvelles, ça a duré trop longtemps. Trop de rant, essentiellement. De l'insolite. L'insolite, c'est la première, ça vient de Kevin Beaumont. Qui porte un regard très intéressant sur les choses. Puis la chose qu'il dit, c'est un post sur Blue Sky qu'il a fait, puis qui chiale un peu, qui rante un peu sur les choses. Puis j'aime ça, clairement, j'aime ça ranter. Pas toujours avec des solutions, malheureusement. En tout cas, bref. Parce que il parle beaucoup du fait que notre industrie, la cybersécurité, s'intéresse beaucoup trop au quantum, au AI, à tous ces éléments-là. La cyberguerre et ainsi de suite, quand on ne s'intéresse pas à ce qui se passe sur le terrain vraiment et que tous ces discours-là et très marketing n'ont rien à voir avec le terrain, donc nous amène dans un endroit qui n'est pas constructif. Disons ça comme ça. Donc, allez lire, je trouve ça très drôle ce qu'elle avait à dire et les commentaires qui suivent. Le Pentagone a décréter que les sensibilisations cybersécurité seront diminuées. C'est dans la même vague les barbes ne seront plus tolérées. Donc, c'est un peu insolite comme discours. C'est un peu un retour en arrière de voir que de se couper du réel et de revenir avec des regards qui ne sont pas rattachés. Donc, de diminuer la sensibilisation des militaires à la cybersécurité qui est pourtant tout. Et le militaire moderne est quand même entouré de beaucoup de technologies, donc s'il n'est pas capable de détecter ou de repérer rapidement une attaque, on le pénalise dans son travail, tant qu'à moi et à beaucoup d'autres personnes. Les deux autres sont un peu jointes, mais sont insolites au sens où il y a un brassard japonais qui a été attaqué. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas une solution qui est souhaitable. Il y a juste le volet japonais de la production de cette compagnie-là qui est affectée. Et le second, puis celle-là, c'est un. Puis c'est pour ça que j'ai gardé vraiment pour la fin, parce que c'est, genre, c'est plus une joke de papa. Il y a un. Suite de l'échelle, j'imagine, ou quelque chose qui s'appelle Free IPA. Mais IPA, c'est pour Identity Protection and Audit, je crois, qui a une faille de sécurité. Puis moi, dans ma tête, ça allait juste en lecture rapide. C'est sûr que si j'ai une IPA gratuite, c'est sûr qu'il va y avoir une escalation de privilèges facile à obtenir à ce moment-là. Blague de papa. Bref, ça termine une nouvelle. J'ai passé vraiment trop de temps. J'ai probablement trop renté encore pour ceux qui sont rendus jusqu'à la fin. Merci de l'écoute. J'attends vos feedbacks. Toujours, j'ai commencé à prendre un peu mon air d'aller pour ce genre de bloc-là. Donc, ça commence à rouler. Merci beaucoup de m'écouter. Merci d'avoir toffé si longtemps que vous êtes rendu jusqu'à la fin, d'avoir écouté mes rants. Si vous avez des idées pour répondre aux rants que j'ai faites, partagez-les. J'ai pas d'idée pour résoudre. Ça serait important qu'on aille. Il y a des réels problèmes là-dedans, même si les solutions sont mal exécutées par des gens qui ne comprennent pas les technologies. Je pense que c'est à nous d'amener les gens à comprendre ces technologies, les amener ailleurs et de trouver des solutions réelles à des problèmes sociaux qui ont beaucoup de valeur, mais qui n'ont peut-être pas l'importance dans l'univers technologique que ces personnes-là veulent leur donner. Donc, bref, merci beaucoup.